Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez particulier. C'est un texte qui vient d'un site nommé Intégralisme organique. Le titre, c'est « Intégralisme organique, bilan et ascendance numérique ». Et la source se décrit elle-même comme une rédaction pugilistique lettrée. On va essayer de décortiquer un peu ce texte qui est en fait une sorte d'auto-analyse de leur audience et de leur ligne éditoriale.
Oui, c'est exactement ça. En gros, le document met en avant une croissance notable de leur lectorat et il détaille aussi leur stratégie de contenu. On sent bien qu'il y a une double intention, rassurer leurs partisans et puis aussi affirmer leur place, disons, dans un certain paysage idéologique.
D'ailleurs, ce terme « intégralisme organique », ça renvoie à quoi exactement, rapidement ?
Ça renvoie à une vision qui cherche à appliquer une lecture assez traditionnelle, catholique, à toute la société. L'organisation sociale vue comme un corps, en quelque sorte.
D'accord. Bon, commençons par ce qui frappe d'abord dans le texte, les chiffres. Ils insistent pas mal là-dessus, on dirait.
Ah oui, énormément. Ils donnent des chiffres précis. Alors, 21 000 visiteurs uniques sur 30 jours, 40 000 sur 60 jours, et ils atteignent presque 55 000 sur 90 jours. Ils parlent aussi de plus de 170 000 pages vues le dernier mois. Et surtout, un chiffre qu'ils mettent en avant, 8,28 pages par visiteur en moyenne. C'est élevé.
8,28 pages par visiteur. Pourquoi insister là-dessus, à votre avis? Qu'est-ce que ça signifie pour eux?
Eh bien, pour eux, c'est la preuve que leur lectorat n'est pas juste de passage. Ils l'interprètent comme un signe d'attention, d'engagement. L'idée, c'est que les gens ne survolent pas, mais lisent vraiment. Même les articles plus denses, plus philosophiques. Ils disent même que chaque article atteint au moins 300 lectures. Et ils appellent ça un effet boule de feu.
Effet boule de feu, d'accord. Une croissance qui s'auto-alimente, en quelque sorte, grâce à la fidélité.
C'est l'idée qu'ils veulent faire passer, oui.
Et qui sont ces lecteurs si attentifs et engagés, d'après ce texte? Comment ils les décrivent?
Alors, le portrait est assez ciblé. Ils sont décrits comme cultivés, majoritairement blanc et enraciné dans la classe moyenne. Mais surtout, le texte insiste sur le fait que ce ne sont pas des consommateurs passifs. Ils seraient plutôt des acteurs dans un combat des idées. Ils chercheraient, je cite, « des munitions doctrinales pour mener une guerre culturelle ».
Munitions doctrinales, guerre culturelle. Oui, le vocabulaire est très martial.
Très.
Et ça nous amène assez naturellement au contenu qu'il propose. Comment il est décrit? Parce que le texte parle à la fois de constance doctrinale et de verbe satirique. Ça peut sembler un peu paradoxal, non?
C'est un point central de leur discours, en fait. Ils revendiquent complètement ce mélange. D'un côté, il y a la doctrine sérieuse, politique, théologie, présentée comme très rigoureuse. Et de l'autre côté, il y a la satire. Mais attention, ils la qualifient de « glaive redoutable ». Ce n'est pas juste de l'humour pour eux.
Un glaive, une arme, donc. Comment ils justifient cette utilisation de la satire dans un cadre qui se veut doctrinal, voire religieux?
Ils se placent dans une certaine tradition, une tradition polémique catholique qu'ils voient comme combative. Ils citent des noms comme Charles Maurras, le théoricien du nationalisme intégral, ou encore Don Saarda et Salvani, qui a écrit « Le libéralisme est un péché ». L'idée derrière, c'est que la satire serait un moyen légitime, parfois même un devoir, pour dénoncer, pour ridiculiser ce qu'ils considèrent comme des erreurs ou des adversaires. Ils vont même chercher des exemples comme le polémiste Louis Veuillot ou la confrontation entre Saint Paul et Saint Pierre dans la Bible.
D'accord. Donc la satire n'est pas une récréation, c'est vraiment un outil stratégique dans leur combat.
Exactement. C'est une alternance entre le fond, la doctrine, et la polémique, la satire, pour garder le souffle, comme ils disent, et éveiller les esprits.
La doctrine pour poser les bases. Et la satire pour attaquer ou déstabiliser.
Voilà, c'est un peu ça. Un positionnement qui est clairement assumé. D'ailleurs, cette stratégie est liée à un appel qu'il lance dans le texte.
Ah oui, ouais. Il y a un appel à contribution.
Tout à fait. Un appel très clair, adressé aux contributeurs virils et éclairés.
Donc écrivains, vidéastes, analystes.
Le but est de rejoindre et de renforcer ce qu'ils nomment une milice culturelle, encore un terme très fort. Et ils insistent sur l'engagement idéologique, zéro argent, que des cerveaux et des burnes. C'est la citation exacte. La motivation doit être purement idéologique.
Milice culturelle, zéro argent, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce document d'intégralisme organique, il présente une plateforme qui se voit en pleine expansion, avec une audience décrite comme fidèle, intellectuellement active et d'un profil démographique assez précis.
C'est ça. et cette croissance numérique est présentée comme une validation de leur ligne éditoriale très spécifique. Ce mélange donc de doctrine catholique traditionnaliste assez dure et de satire agressive pensée comme un outil de combat dans cette fameuse guerre culturelle.
Et ils le disent clairement, leur objectif n'est pas le divertissement, mais la conversion, au sens intellectuel, spirituel, j'imagine.
Précisément. C'est vraiment une autoprésentation qui se veut très cohérente. Elle lie les chiffres de croissance à une stratégie de contenu très ciblée. Le but affiché est d'armer intellectuellement un lectorat particulier pour un combat d'idées qu'ils estiment fondamental.
C'est une démarche qui illustre bien une certaine façon de faire du débat d'idées en ligne aujourd'hui, avec des codes et des justifications propres.
Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Comment ce type de discours, qui allie une doctrine très affirmée et une rhétorique si combative, parfois agressive sous couvert de satire, comment est-ce que ça interagit avec le reste de l'espace médiatique? Et comment ça façonne la vision du monde, non seulement de ceux qui y adhèrent, mais aussi la perception qu'en ont les autres? C'est une vraie question.